France Inter.
Des millions de barils de pétrole stockés dans d'immenses tankers, restés à quai et sans destination. Une image qui illustre la crise que traverse actuellement le secteur pétrolier américain. Faute d'automobilistes dans un monde à l'arrêt, le brut n'intéresse plus personne. Et si son cours rebondit légèrement ce matin en Asie, il était hier soir pour la première fois de son histoire négatif. Le baril made in USA valait à la clôture moins de 38 dollars. Alors comment expliquer une telle dégringolade? Les explications à New York de notre correspondant Loïc Loury.
Quelque chose de bizarre, dit le New York Times, s'est produit hier sur les marchés. Comment une matière première bien réelle, du pétrole, peut-elle en effet valoir moins que rien? C'est-à-dire que certains payent pour s'en débarrasser. Il y a d'abord bien sûr le contexte, restriction de circulation et mise à l'arrêt de l'industrie et donc une demande mondiale historiquement faible. Paramètre aggravant, le bras de fer en début d'année entre Riyad et Moscou a tiré la production à la hausse. Mais cela n'explique pas tout et les États-Unis sont en partie responsables de leur propre malheur car le marché américain est saturé, 500 millions de barils déjà stockés du pétrole à ne plus savoir qu'en faire. Dernier facteur et non des moindres, les contrats pour livraison en mai expirent aujourd'hui, il faut donc les vendre coûte que coûte. C'est ce pétrole qui affiche des prix négatifs. Un baril à moins 38 dollars contre 18 vendredi et 60 en début d'année, un indice qui n'avait jamais chuté sous les 10 dollars. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et Dominique se reviendra tout à l'heure à 8h moins le quart sur cette chute sans précédent du cours du pétrole, donc à moins 38 dollars hier soir. Et on reste aux États-Unis avec ce tweet ce matin de Donald Trump qui annonce la suspension temporaire de l'immigration pour protéger les emplois des grands, grands écrits en lettres majuscules, grands citoyens américains face à la crise économique provoquée par le coronavirus. Le bilan sanitaire est lourd, plus de 42 000 morts outre-Atlantique, 784 000 cas de contamination. Et pourtant, les manifestations pour réclamer la fin du confinement se multiplient. Même si elles ne regroupent parfois que quelques centaines de personnes, elles sont désormais quotidiennes et reçoivent régulièrement le soutien de Donald Trump. Le plus gros rassemblement s'est tenu hier à Harrisburg, en Pennsylvanie, où s'est rendu l'envoyé spécial de France Inter, Grégory Phillips.
Autour du Parlement local, des centaines de voitures tournent en klaxonnant. Pendant 2 heures, il y a beaucoup de drapeaux Trump 2020. Puis la foule commence à se réunir sur les marches du Capitole. Il y a des militants pro-armes, des familles avec enfants, des anti-avortements, des hommes en treillis kaki et armés, une femme qui porte un panneau « quarantaine égale communisme » et John qui sur sa pancarte a dessiné un masque chirurgical. En dessous, il a écrit « dictature ». Je veux retourner travailler, dit ce vétéran de l'armée. On n'a plus d'argent. Le magasin de bricolage pour lequel je bossais a fermé. Il faut rouvrir ce pays. Il y a plus de morts chaque année de la grippe et on ne ferme pas tout pour autant. Valérie, elle, est persuadée que ce virus a été conçu par Bill Gates, dit-elle, et aussi par l'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, le docteur Fauci. Je crois qu'ils ont fait ça pour créer un vaccin et ensuite nous obliger à l'avoir. Je ne suis pas d'accord. Dans l'après-midi, Donald Trump a fait savoir qu'il soutenait ces manifestants, mais qu'il les invitait aussi à respecter les mesures de distanciation sociale. Ce n'était évidemment pas le cas hier à Harrisburg. La foule était compacte au pied du Capitole et très peu de manifestants portaient un masque sur le visage. Harrisburg, Grégory Phillips, France Inter.
A contrario, plus de 300 salariés d'Amazon aux États-Unis n'iront pas travailler aujourd'hui dans les entrepôts pour exiger une amélioration de leurs conditions sanitaires. Le géant américain est accusé depuis le début de l'épidémie de ne pas suffisamment protéger ses salariés. C'est le cas également en France où Amazon a été condamné. L'entreprise a décidé de fermer ses entrepôts et a fait appel. Le dossier doit être justement examiné aujourd'hui. Une partie des salariés conteste d'ailleurs l'action du syndicat Sud et affirme qu'il n'y avait pas lieu de saisir la justice. Deux employés de l'entrepôt Lovinplanque ont lancé une pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 15 000 signatures. Reportage dans le nord de Cécile Bidot.
Dans l'entrepôt de Lovinplanque où travaillent 1 800 personnes en CDI, les deux salariés à l'origine de la pétition reconnaissent que les conditions d'hygiène laissaient à désirer lors de la première semaine de confinement. Mais Mohamed Manadjé, qui prépare les commandes ici depuis 3 ans, affirme que des mesures ont été prises.
On dit de respecter 1 mètre, nous ils ont même été 2 mètres. Un petit flacon de gel personnel,
et des lingettes désinfectantes sur tous les postes de travail.
Ces salariés disent en vouloir au syndicat qui a porté l'affaire devant la justice. La pétition qu'ils ont mise en ligne mercredi dernier vise à dénoncer ce qu'ils appellent une injustice qui pèse sur les emplois et sur les clients. Des clients qui sont d'ailleurs nombreux à signer et à laisser des messages de soutien. Priscilla Suarez travaille à Lovin-Planck depuis 4 ans. Elle espère que les juges permettront à Amazon de reprendre son activité sans restriction.
Ça fait plaisir qu'il y ait autant de gens qui nous soutiennent, parce qu'on a l'habitude de casser un peu beaucoup de sucre sur Amazon. Et moi, j'avais plutôt le sentiment de participer quand même à ce que le monde continue quand même à tourner. Pour moi, tout est essentiel aujourd'hui, de livrer des livres ou des jouets à des gens, plutôt que de leur livrer des pâtes et du riz.
Les salariés restent payés à 100%, mais l'inquiétude est vive pour les 1200 intérimaires. Certains auraient vu leur contrat prendre fin.
Cécile Bidot de France Bleu Nord.
Il est 7h07, Agnès, des retrouvailles émouvantes hier dans les EHPAD.
Ils ne s'étaient pas vus depuis plus d'un mois. Quelques heures seulement après l'annonce d'un léger assouplissement des mesures de confinement, certains établissements ont pu organiser des rencontres strictement encadrées entre des résidents et des membres de leur famille. Contact visuel, sans embrassade, un peu frustrant bien sûr, mais essentiel. Julie Pietri a suivi à distance, par l'intermédiaire du personnel soignant, des retrouvailles à l'EHPAD du Pied du Roi a coulé dans les Deux-Sèvres, direction le Salon des Familles.
L'établissement a des aires de forteresse anti-Covid. Désinfection des chaussures à l'entrée, prise de température du visiteur, masque obligatoire et mains généreusement mouillées de gel hydroalcoolique. Quant aux échanges, organisés sur rendez-vous, ils se font à près de 3 mètres de distance.
Ça va?
Oui.
Oui.
Comme ça doit aller, en fait, avec.
Papa, voilà, dit ça va, il fait aller. Bon, il a un petit peu de problèmes d'oreille, mais bon, on parle un peu plus fort. Et ça va.
Geneviève est venue rendre visite à son père, Auguste, 86 ans. Première rencontre depuis le début du confinement.
Bon, ça fait plaisir, mais qu'est-ce que vous voulez? En plus, on est confiné, puis c'est tout. On ne peut pas faire davantage, pourvu qu'on ne soit pas malade.
Papa n'est jamais très très expressif, donc je pensais que ça allait être plus émotionnel, mais non, il a l'air de bien aller. On s'appelle quand même régulièrement, plusieurs fois par semaine par téléphone.
Je suis toujours occupée.
Donc là, il me montre voilà, les photos, les cartes postales qu'il a reçues la semaine dernière.
Dans cette EHPAD, cela fait déjà plusieurs jours que des rencontres se tiennent, mais à travers une vitre, précise l'animateur Philippe Pacro.
Au début, nous, la semaine dernière, on ne faisait pas comme ça. On laissait les personnes à l'extérieur de l'établissement et les résidents étaient à l'intérieur de l'établissement. Et voilà. On a commencé un petit peu en fonction des besoins des résidents, en fait, parce qu'il y avait certains résidents qui étaient vraiment un petit peu plus en détresse. Voilà, nous, on n'est pas les enfants, hein, on n'est pas la famille. Hein. C'est pas remplaçable. Hein. Le fait qu'ils reviennent, bah ouais, ça fait plaisir. Ouais.
Ces retrouvailles durent en moyenne une trentaine de minutes et sont organisées tout doucement. Deux, par exemple, hier après-midi, trois prévues aujourd'hui, avec désinfection systématique de la pièce après chaque échange.
Julie Pietri. Notre pays a franchi un cap symbolique et particulièrement douloureux, a dit hier soir le directeur général de la Santé. Le cap des 20 000 décès a en effet été dépassé, mais le nombre de patients hospitalisés et en réanimation continue de baisser. 30 584 malades toujours à l'hôpital, dont 5 863 en réa. Moins de 10% de la population française a été touchée par le virus. L'immunité collective est donc basse, estime Jérôme Salomon. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Il faut donc tout faire pour éviter une nouvelle vague de contamination. L'organisation des événements à venir a donc été revue. Pas de grandes manifestations pour le 1er mai, mais des pancartes accrochées aux fenêtres et des slogans revendicatifs sur les réseaux sociaux. Les commémorations du 8 mai auront lieu, mais sans public et en tout petit comité. Une cérémonie nationale sera bien organisée à Paris sous l'Arc de Triomphe, en présence d'Emmanuel Macron et d'un nombre restreint de personnalités civiles et militaires pour le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme.
Il est 7h10, Agnès. De plus en plus de monde obligé de demander de l'aide aux associations.
Plus les jours passent et plus les demandes affluent, avec un public qui n'a pas l'habitude de se tourner vers les organisations caritatives. Artisans, indépendants, auto-entrepreneurs, ils se retrouvent sans ressources depuis plus d'un mois, avec les commerces fermés et des chantiers à l'arrêt. Timur Osturk a joint un nouveau bénéficiaire du Secours Populaire.
Artisan poseur de cuisine près de Limoges, Jean-Louis est passé en quelques semaines d'un chiffre d'affaires mensuel de 6 000 euros à rien.
J'avais bénéficié des 1 500 euros de l'État, mais ils sont partis en gros dans les charges, quoi. J'ai fait tout un tas de demandes, le RSA, je ne sais même pas où est-ce que ça en est, je leur ai fait une demande. Et puis depuis, bah zéro, plus rien, du tout.
À 59 ans, il bénéficie pour la première fois des colis alimentaires du Secours Populaire.
Je leur dois une fière chandelle. parce que sinon, je pense que j'aurais pas pu donner à manger à mon fils. Et je peux vous garantir qu'un gamin de 17 ans, ça bouffe. Mais il faut pas se voiler la face. Et s'il y a pas un petit peu de rentrée d'argent, ben le loyer, ça va vite être réglé, le problème. L'électricité, le gaz, ça va être pareil, parce qu'il va falloir que je les paye aussi.
Des situations comme celles que traverse Jean-Louis, de plus en plus de commerçants et d'indépendants y sont confrontés. C'est le constat de Jean Stellitano, secrétaire national du Secours Populaire.
Ce sont des fois les amis, les auto-entrepreneurs qui nous contactent. Ben nous, on appelle et on appelle de la part d'eux. Il y a vraiment un constat d'échec pour eux, une remise en question totale. Et là, très vite, ça se lâche, très très vite.
Depuis le début du confinement, dans certains départements, le Secours Populaire aide 20 à 50% de personnes supplémentaires. Alors que toutes ces collectes sont à l'arrêt, l'association appelle aux dons sur son site.
Sans le Secours Populaire, je n'aurais pas pu donner à manger à mon fils. C'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et puis, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales va verser près d'1 milliard d'euros pour aider les familles en difficulté. Plus de 4 millions de foyers vont ainsi en bénéficier. Aucune démarche à faire. L'aide sera versé automatiquement. En bref, en Israël, il aura fallu 16 mois de crise et 3 scrutins législatifs pour que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz s'entendent pour former un gouvernement d'union nationale en pleine crise du coronavirus. Leur pacte d'une durée de 3 ans devrait permettre la formation d'un gouvernement bipartisan avec pour Premier ministre Benjamin Netanyahou durant les 18 premiers mois, puis Benny Gantz pour les 18 mois suivants. L'autorité palestinienne a aussitôt dénoncé un gouvernement favorable à l'annexion de Pan de la Cisjordanie. Enfin, festivals annulés, expos reportés, le marché de l'art est lui aussi à l'arrêt, mais les initiatives se multiplient avec le premier festival d'art urbain confiné. Une centaine de street artistes, d'artistes urbains de l'Hexagone, ont décidé d'exposer et de vendre des œuvres en ligne au profit de la fondation APHP. Des œuvres en format A4, vendues entre 60 et 700 euros. Des œuvres inédites, liées bien sûr à la crise sanitaire. Isabelle Pasquier.
Ce sont des œuvres poignantes qui ont été créées dans l'urgence. Une infirmière masquée avec des gants de boxe signée Grafmat. Philippe Erard, lui, présente un homme âgé qui apporte des bouées de secours à l'hôpital. Il y a aussi ce pochoir de l'artiste Raf Urban, un visage de femme noire avec sur ses yeux ses 4 lettres en bleu, Hope, Espoir. Avec ses puissants portraits en noir et blanc, Mouarf est l'un des piliers de ce festival. Art urbain confiné.
On se sentait vraiment absolument pas de rester chez nous à rien faire. Donc on s'est dit qu'on allait faire quelque chose avec les armes qu'on a, c'est-à-dire l'art directement.
Très mobilisés, ces artistes solidaires et souvent en situation précaire.
Les artistes street art ne sont pas forcément tous des artistes qui vivent de leur art, c'est des artistes qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois et c'est un petit peu difficile pour eux de venir en aide aux hôpitaux, sachant qu'eux-mêmes sont dans une situation difficile et que le confinement va rendre très très précaire dans les prochains mois. Ils disent, voilà, c'est ce qu'on sait faire, ça nous coûte notre temps de travail et notre talent, mais ça peut apporter énormément à la situation de crise directe dont les soignants ont besoin.
Les œuvres exposées ont un tel succès qu'elles sont très vite achetées et du coup chaque jour, les artistes exposent de nouvelles créations.
Et l'argent récolté, Nicolas, sera reversé au fonds d'urgence de l'assistance publique hôpitaux de Paris pour soutenir les équipes et la recherche.
Merci Agnès Soubiran.